J'aimerais d'abord mettre un tout petit peu au travail, pas comme la dernière fois. Je vais changer un petit, certaines petites choses. Je suis toujours dans Éphésiens. Donc cet été, j'avais prêché sur Jésus qui était mort pour nous, et on avait médité ce texte ensemble. Je ne sais pas si vous en rappelez. Et cette méditation a été tellement impactante. C'était vraiment chouette. Pour moi, mais aussi pour chacun de nous. J'aimerais juste que je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Donc j'avais prévu un temps de... Faut préparer les feuilles. C'est... Si vous deviez choisir un thème ou quelque chose par rapport au livre des Éphésiens, ce petit texte, quel serait votre... Qu'est-ce qui ressort d'après vous dans ce texte-là? Il va y avoir peut-être 10 avis différents parmi nous, et c'est normal, hein, parce qu'on ne vit pas tous la même saison, on n'a pas tous la même onction, donc l'objectif n'est pas de s'opposer dans ce qu'on reçoit, mais au contraire de s'enrichir dans ce qu'on reçoit. Et d'avoir tous ensemble une vision un peu plus globale. J'ai reçu des choses que j'aimerais vous partager après, mais j'aimerais vous laisser quelques minutes de travail, de réflexion, pour que vous puissiez peut-être jeter un coup d'œil sur ce passage. Ou alors, en même temps, vous n'avez pas le temps de tout le lire entièrement. Et c'est forcément quelque chose qui est déjà là. Donc, je vous demande de réfléchir à ce quelque chose qui est déjà là. Ou que peut-être Dieu est en train de vous révéler et puis dire, moi, voilà ce qui est important pour moi dans Éphésiens, dans tout ce livre. Donc c'est, alors bien sûr, il y a forcément un passage ou un mot ou quelque chose qui va ressortir. Voilà, je vais vous laisser 3 minutes. Allez, 3 minutes. Ça devrait être pas mal. Vous avez le droit de partager avec votre voisin, votre voisine, si jamais. Il est 11h26, donc 11h29. Et puis après, je refais un tour dans ce que parmi vous. Voilà. Alors, peut-être que certains vous font plus de temps, parce que tout le monde n'a pas partagé la même chose au même moment. Mais les 3 minutes sont plus ou moins passées. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent dire ce qu'ils perçoivent dans Éphésiens, tout le chapitre?
En même temps, j'aimerais vous témoigner un petit quelque chose. À tout moi, hein. Vous, je suis sûre que c'est pas ce que vous vivez. Mais tout l'été, cet été, j'avais vraiment demandé au Seigneur, oh Père, j'aimerais tellement ne plus juger. Alors même, pas le juger, tu sais, le direct, les arrière-pensées. Là, tu te dis, oh non Seigneur, je voudrais vraiment y arriver. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux le faire, mais je choisis. Hein, comme dirait notre cher Fabrice, je choisis. Alors, cet été, je dis, je choisis et aide-moi, Saint-Esprit. Et notre Père, le Saint-Esprit m'a dit, ben, écoute, c'est simple, Jocelyne. Tu vas chez Éphésiens et tu lis le 12. Éphésiens 6, 12. Qui nous dit, attention, je ne déchire pas la Bible de mon mari. Il est où le Éphésiens 6, 12. Je viens de perdre ma page. Là. Et il nous donne cette clé, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Je dis waouh! Eh bien écoutez, franchement, c'est extra. Quand il se passe quelque chose qui ne me convient pas, je me dis, ah non, c'est pas la personne. C'est ce qui se passe derrière ou autour. Eh ben, je ne juge pas la personne, au contraire. Le Seigneur a permis de dire, ouais, ben, prie pour elle. Donc, quand le Seigneur nous dit, priez pour vos ennemis ou priez pour les personnes qui vous agacent ou qui vous énervent, etc. Eh ben, vous pensez à ce verset et vous le proclamez. Et Dieu, il va encore plus loin et te donnera même, à la limite, le pourquoi. Et tu peux prier contre.
Merci. Merci. Ok. Quelqu'un d'autre? Alors, faut que ça aille, David. Hein. Sinon, ça va être compliqué. J'ai plus de message après derrière.
Ben, il y a plein d'adresses dans toutes les Éphésiens qu'on connaît bien. Une des choses qui m'a frappé toujours, c'est les deux prières apostoliques que fait Paul dans le premier chapitre et le troisième chapitre, et je les trouve simplement puissants et des bons modèles pour nous de prier pour les autres.
Amen. Des prières apostoliques. Quelqu'un d'autre? Oui.
Oui, ben je pense aux armes que Dieu nous a données. Dès que on parle d'Éphésiens, c'est ça. Et ces derniers temps, comme ça, c'est vrai qu'on nous dit tout le temps, pense à mettre ton armure. Et c'est ce que je faisais ou je fais encore. Mais c'est ce qu'il y a, quand on dit le casque du salut, c'est de vraiment croire au salut qu'on est sauvé. Et c'est ça le casque. Et la ceinture de vérité, c'est vraiment être vrai. Et avoir la vérité de Jésus, c'est d'être vrai. Ou la justice, la cuirasse de justice, c'est la justice de Dieu. Et c'est ça la cuirasse. C'est pas seulement le fait de voir l'armure, c'est de vivre tout ce que ça représente.
Amen.
Que tu arrives, parce que là, mon fil il est un peu limite.
Alors, je trouve Éphésiens, c'est une extraordinaire épître de révélation, au pluriel. Hein. Il y a plein de révélations, les yeux ouverts, quoi, illuminer les yeux du cœur. Et ça ne s'arrête pas là, il y a révélation. Et après, il y a tout l'aspect de conquête de ce qui nous est révélé. Donc, mise en action, conquête, quoi. Et alors, on a dit que Éphésiens, c'était la contrepartie dans le Nouveau Testament de Josué. Donc, ça, on est très, très, très concernés, nous, avec Josué, par Éphésiens. Mais révélation, et après, on conquiert ce qui nous est révélé dans l'obéissance.
Amen. Révélation et conquête. Donc, ne pas juger, révélation et conquête. L'armure, la cuirasse. D'autres choses ? D'autres qui veulent partager ?
Moi, je crois que cette épître, elle nous parle beaucoup de notre identité, de notre position en Dieu, en Jésus-Christ. Et donc, tu as parlé du premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, il y a ce fameux passage où il est dit que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et juste, ce que je trouve beau, c'est que le terme grec, ouvrage, a donné plus tard, c'est poémia, et il a donné plus tard le terme de poème. Et je trouve que c'est une très belle image de se comparer quelque part à un poème, quelque part que le Créateur veut faire de nous. Et une dernière chose aussi, je crois que c'est dans le chapitre 3, où il est dit qu'on nous donne la clé pour être rempli de la plénitude de Dieu. Et je trouve ça déjà énorme, être rempli de la plénitude de Dieu. Et ce qui est beau, c'est que ça doit passer obligatoirement par la case amour. Et ce qui est logique, vu que Dieu est amour, parce qu'il est dit, voilà, que il s'agit d'avoir la révélation de l'amour de Christ. Hein, voilà, de la longueur, la largeur, ainsi de suite. Voilà, la profondeur, l'amour de Christ. Et il est dit, ainsi, on sera rempli de la plénitude de Dieu. Et ça, je trouve extraordinaire. Voilà.
Amen. Ok. Dernière intervention, ou l'avant-dernière, si jamais quelqu'un.
Merci. Oui, moi c'est comme David, hein, c'est les deux, ce qu'on peut appeler les prières apostoliques de Paul, mais c'est en particulier Éphésiens 1, parce qu'il y a vraiment plein de clés qui nous sont données. On a été créés, en fait, pas pour nous-mêmes, pour vivre une petite vie bien tranquille sur la terre, mais pour célébrer la gloire de Dieu. Et voilà, Paul nous donne après la clé. Qu'est-ce que c'est pour célébrer la gloire de Dieu? Ben, c'est de réaliser, de vraiment recevoir cette révélation de qui est Jésus et de ce qu'il nous a acquis et de son plan pour nous. Pour nous en tant que corps du Christ, pas en tant que personne individuelle, mais en tant que corps du Christ, en tant qu'épouse de Christ. Et voilà, donc moi, de plus en plus, hein, quand j'entends des chants où on dit « je », ben, il y a peut-être quelquefois un petit peu « je », j'adore le Seigneur, etc. Mais il y a aussi beaucoup de « nous ». Nous, enfin voilà, tu es là présent parmi nous. Pas seulement moi, quoi. Voilà. Donc je crois qu'on est vraiment en marge dans cette révélation. Et le corps avec un grand C, hein, vraiment toutes les dénominations. Et dans la vallée du Florival, ça a déjà bien commencé, mais c'est rien par rapport à ce que Dieu veut faire. Donc voilà, qu'on continue à recevoir cette révélation.
Merci. Un grand nous. Prière apostolique encore une fois. Ok. Last chance. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc on peut voir plein de choses dans ce texte, et chacun peut avoir des choses soit plus personnelles, soit plus générales, mais toutes se valent. Personnellement, j'ai commencé par faire une grande petite analyse de ce texte avec de plein d'éléments. Par exemple, parce que c'est un texte que j'ai tellement lu et je pense que chacun de vous, morceau par morceau, les armes, ou bien Éphésiens 1, l'élimination du cœur, et puis ci, et puis ça. Et ce texte est d'une telle richesse que c'est juste, waouh, qu'en fait, il cache des plein de... Pour moi, il a caché d'autres choses. Par exemple, si je l'imprimais sur en petite police en 12, ça resterait sur deux feuilles. Tout ça, juste dans tout ça, dans deux feuilles. Juste l'incroyable richesse de ce texte, qui n'est ni ennuyeux ni répétitif et qui apporte tellement de choses. Et en fait, du coup, ça nous éblouit dans plein de domaines et on est un peu scotché quand on voit les choses. Donc, du coup, j'avais toujours du mal un peu de le revoir, de le regarder dans sa globalité. Donc là, du coup, j'ai pris un peu plus de hauteur. J'ai trouvé très intéressant comment ça commence. C'est, comme ça a déjà été dit tout à l'heure, c'est un texte où il y a des choses fortes qui sont proclamées, mais dans les premiers chapitres, il y a beaucoup de nous. Ça s'est dit tout à l'heure. Je pourrais tous vous les... Mais en gros, sur tout le texte, hein, je ne dis pas juste, mais sur tout le texte, il y a une bonne quarantaine de fois le « nous » ou « notre », surtout de « beaucoup de nous ». Et c'est tout au début, il y a Paul qui a dit, qui commence à parler, nous a bénis, nous a élus, nous a prédestinés, nous a accordés, nous avons la rédemption, nous faisons connaître, nous sommes devenus héritiers, nous. Et il continue, notre Seigneur, nous qui croyons. C'est juste incroyable le nombre de nous qui sont instillés comme ça dans le texte. Après tout, sinon on pourrait se dire, mais c'est fatigant, c'est usant. Mais non, on ne voit pas la répétition. Et même pendant trop longtemps, je n'ai pas vu cette répétition de tous et nous. Nous tous, nous étions, nous vivions, nous étions par nature, nous a aimés, nous étions morts, nous a ressuscités, nous a fait asseoir, nous sommes son ouvrage, nous les pratiquions. Il y a juste ce nous qui est absolument omniprésent. Et je crois que Paul, vraiment, vous nous encouragez à être un nous. Et ça a été dit tout à l'heure, pas un jeu, mais un nous. Il y a ce nous local, mais extra-local, un nous complet. Et il y a plein de choses qui ne sont impossibles si nous ne sommes pas nous. Et puis, dans ce nous, il y a... Juste pour remettre le contexte, à un moment donné, a priori, il y a un moment donné, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de partager avec vous. Est-ce qu'il les connaissait bien, est-ce qu'il ne les connaissait pas bien, j'en sais rien. Mais c'est un texte qui est, je sais qu'il a été à Éphèse, donc est-ce que c'est suite à son passage qu'il a écrit ce texte, ou bien plus tard, j'ai pas toutes les clés en main, mais... Et c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il met quand même une certaine distance parce qu'il dit « Vous avez entendu votre foi, vous faites en mention dans mon prière. » Il y a le « vous » qui est là. Et même dans tout ce premier chapitre, il faut que votre cœur... Et il y a une idée où il veut dire « Je veux vous emmener là. » Et bien sûr, on est « nous », mais il y a aussi quelque chose qui doit grandir en vous. Et je pense que quelque part ça a été un peu partagé dans cette parole que nous a donnée Julie tout à l'heure, où on doit aller arriver à un autre endroit, grandir. Il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on a reçu. Et je me suis posé la question, si j'avais été dans cette église et que j'ai reçu cette lettre, comment est-ce que j'aurais réagi? Parce qu'au départ, finalement, mine de rien, c'est ok. Et Paul remet en place tout ce qui est du sacrifice, la rémission des péchés, tout ça. Et après il dit, mais voilà, vous avez besoin que vos yeux soient illuminés. En transparence, on peut voir que leurs yeux ne sont pas illuminés. Donc il y a un sacré manque. Et vous avez besoin de ça, les cocos. Ah, oups. Et Et puis il répète, vous étiez mort par vos péchés, vous marchiez autrefois. Maintenant, mettez ça de côté. Souvenez-vous d'où vous êtes sorti. Vous, et puis il parle de... Et puis il appelle aussi, c'est un sujet cher à Josué, il va rappeler le fait que le nous et le vous, c'est aussi tous ensemble, une grande famille, mais entre ceux qui étaient au loin, verset 9, et ceux qui étaient prêts. Il parle de la paix qui est donnée. Et on parle de l'homme nouveau, le fait que entre juifs et non-juifs, il y avait besoin de cette relation, de cette communion. Mais ça peut être aussi dire que dans cette maison, dans cette église, il y a peut-être déjà des dissensions ou des questionnements entre ouais, mais est-ce qu'il faut être judaïsé, est-ce qu'il faut être juif, est-ce qu'il ne faut pas être juif, est-ce que... Et puis les juifs peut-être disaient mais non, mais les païens, c'est pas les bons. La Paul est en train de remettre de l'ordre. Donc le chapitre 2 nous dit hey, les gars, il y a quand même quelque chose que vous devez savoir. Les deux sont bons. Et c'est peu importe d'où vous veniez, dans les dieux, vous qui étiez loin et vous qui étiez près, vous avez besoin de la paix. Et c'est juste incroyable comment il faut le continuer. Et puis après, il reparle, vous étiez des païens, et il parle du fait que lui, il a reçu cette intelligence du mystère de Christ. Et que ce mystère doit être annoncé, non seulement sur la terre, mais dans les lieux célestes, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il y a comme un basculement de ce chapitre 3. Il n'y a presque plus de nous. C'est comme si Paul avait mis en place les éléments. Dire, voilà, vous avez besoin d'une illumination. Vous avez été sauvés, vous avez besoin d'une grande unité dans tous les peuples. On va aller au-delà. On va dépasser ça. Et mais vous avez besoin des... Ça a été aussi rappelé, besoin de comprendre tous ensemble l'amour dans toute sa plénitude. Et là aussi, ça me dit que peut-être il y avait des querelles intérieures. Parce que si on nous dit, ben voilà, vous avez besoin de ça, c'est que peut-être tu l'as pas complètement. Et du coup, j'ai commencé à regarder cette église avec un autre regard. Parce que dans le premier texte, je me disais, mais waouh, il y a tellement de promesses. Je me disais, bon, finalement, elle a peut-être quelques petits soucis. Et puis, on arrive au chapitre 4. Et là, il y a comme un basculement dans le texte. Il y a quelque chose qui commence à apparaître dans ce texte. Alors il y a toujours au début on reparle d'un seul corps et ça c'est vraiment quelque chose d'important dans tout ce passage d'Éphésiens, un seul corps, les dons qui ont été donnés, et puis après on commence à rentrer dans quelque chose qui bascule, c'est l'impératif qui s'invite dans le texte. On commence à dire voilà, soyons pas juste écoutez, mais soyons. Et dans tout le passage, après, on continue à parler d'une croissance. On veut devenir, arriver à une croissance, une maturité à l'homme, à la stature de l'homme qui est fait. On va rejeter tout ce qui est impureté. Et là, il y va quand même assez fort. Il est très... ouais. Dépouillez-vous. Soyez renouvelés. Renoncez aux mensonges. Ouais, imaginez que dans l'église, quelqu'un vienne ici et dise « renoncez au mensonge ». C'est quand même assez intéressant. Vous vous mettez en colère, ne péchez point, ne donnez pas accès au diable, n'attristez pas le Saint-Esprit, soyez bons les uns vers les autres. Et en relisant ça dans ce contexte-là, je me dis « waouh, combien de verbes impératifs ont été posés ». Et se retrouve la même chose dans dans le chapitre 5. Devenez les imitateurs de Dieu, marchez, sachez. C'est intéressant aussi dans le verset 5, sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Et Paul fait l'amalgame entre l'idolâtrie et tout ce qui est cupidité ou impureté. Ouais. N'ayez aucun rapport avec eux. Là, il dit vraiment condamnez-les, prendre une mise à part. Prenez garde. Et de nouveau, on a tout un chapitre où il y a plein d'ordres. Ne vous enivrez pas, soyez au contraire. Et après, on rentre dans un travail au niveau de la famille. Et tout ça dans ce même texte. On parle de la relation dans le couple. Soyez femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Mais rappelle que nous sommes membres d'un seul et unique corps. Puis après, il va parler des enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Vous, pères, n'héritez pas les enfants. Il y a ce travail de relation entre les générations. Serviteurs et maîtres, servez, obéissez. Et en même temps, il dit au maître, attention, agissez avec égard. Abstenez-vous de menaces fortes. Et puis à la fin, ok, j'ai déjà dit tout ça, maintenant on va vous fortifier et on va passer aux armes de l'esprit. Et je me suis dit que c'est quand même une sacrée lettre à recevoir et à lire. Parce que peut-être toutes ces choses-là manquaient dans cette église. Et même quand il leur dit de fortifiez-vous, ça veut dire que peut-être c'est pas quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Tout simplement. Et là aussi, c'est prenez le bouclier de la foi. La parole est la foi qui viendra éteindre les traits enflammés du malin. On parle de l'intercession, on parle des... Donc avec un survol, je me disais que finalement cette église était peut-être moins brillante que j'ai cru l'avoir pendant très longtemps. Qu'elle a eu besoin d'être exhortée, d'attirer ses regards sur ses faiblesses, ses failles. Et en même temps, il y avait derrière les encouragements pour aller de l'avant. Mais tout ça, c'est possible que si on a le regard de Dieu au départ. C'est-à-dire, vous avez besoin d'être illuminé, besoin d'être complètement bouleversé dans ce que vous croyez, ce que vous voyez. Et on a besoin de ça aujourd'hui. Alors je ne dis pas que nous sommes l'église d'Éphèse, même si peut-être nous avons les caractéristiques de l'église d'Éphèse dans certains domaines, mais je pense qu'on a besoin d'être réveillé tout à nouveau dans tout ce que nous voyons. C'était intéressant aussi par rapport au texte que j'ai lu tout à l'heure de Exode 24. On retrouve des éléments du même ordre. On a du sacrifice qui est là. On a une vision, une illumination et la gloire. Et après, on est assis dans la communion. Parce que finalement, ce que nous rapporte Paul aussi dans Éphésiens, c'est d'être assis dans les lieux célestes. Et il y a plusieurs passages où il dit vraiment dans ce chapitre, attention. L'Église est là pour révéler les mystères de la gloire de Dieu face aux principautés, aux dominations. Et je pense que c'est là où on doit comprendre comment on le sacrifice, comprendre que nous sommes un seul corps, et puis venir, cette illumination, venir toucher nos cœurs. Et ce n'est pas parce qu'on l'a vécu une fois que c'est fini. Par exemple, Moïse, quand il a fait tout un cheminement avec et en Égypte, et en même temps quand il revenait sur la terre promise, qu'il n'a jamais vu d'ailleurs, enfin si, qu'il a vu, mais dans lequel il n'est pas rentré, à un moment donné, mais avec tous les défis qu'il a eus, mais Seigneur, j'en ai un peu marre. Est-ce que je peux voir ta face? Est-ce que je peux te voir? Et Dieu dit, mais non, tu peux pas me voir. Je vais faire passer ma bonté devant toi. Alors que, bien plus tôt, ça c'est dans Exode 33, alors bien que plus tôt dans Exode, tout à l'heure 24, il est dit qu'ils avaient vu quelque chose de la gloire de l'Éternel en tout cas. Mais on a besoin toujours et encore de voir l'Éternel. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'on puisse revivre à nouveau, être illuminé au fond de nous-mêmes. Parce que la plupart de nos combats, effectivement, comme ça a été dit, ne sont pas sur la terre. Mais en même temps, ça nous engage. Je reprends un autre passage, Exode 17, qui a été lu récemment, hein, donc c'est pas un nouveau passage. C'est à un moment donné, c'est entre l'Exode, la sortie d'Égypte et le moment où ils vont recevoir les commandements, la loi. Il y a ce combat avec les Amalécites, et vous racontez toute cette histoire, hein, ils sont là, Dieu dit à Moïse, choisis des guerriers, tu iras combattre les Amalécites. Ils devaient être contents, ils sont sortis d'affaires avec les Égyptiens, là ils ont un nouveau combat. Mais c'est sympa, je croyais que la terre promise allait venir toute seule. Ben non. Alors je trouve aussi, alors c'est vrai que c'est un temps de guerre, donc peut-être qu'aujourd'hui c'est pas pareil, mais Moïse dit à Josué, choisis des guerriers. Il leur a pas demandé de faire une élection, de savoir s'il y en a qui avaient envie d'y aller ou pas. Et il choisit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des échos de guerre, on peut se dire, mais si moi j'étais à l'époque et qu'on m'aurait dit, mais toi tu viens demain à la bataille. Mais j'ai rien demandé, moi je suis bien là, j'ai ma famille, il faut que je t'occupe de mon troupeau, j'ai tout ça à faire. Je peux pas m'occuper de ta bataille, vas-y, prends quelqu'un d'autre. Eh ben, je pense pas qu'ils ont eu beaucoup de choix. Hein. Et puis, ils devaient se poser quand même des questions. Il y a Moïse qui parle là-bas en haut avec la montagne, d'accord. Peut-être qu'il se met à l'abri, c'est comme ça qu'il fait. Mais il avait le bâton de Dieu à la main, on connaissait cette histoire. Et puis, tant qu'il priait, il gagnait. Dès qu'il était fatigué, Amalek l'emportait. Et puis, il dit qu'à un moment donné, ils vont placer une pierre. Alors, ça fait partie des questions, pourquoi il ne pouvait pas se déplacer. Ils ont dû chercher une pierre pour le placer sous Moïse, pour qu'il puisse rester plus ou moins debout, je suppose, quelque chose dans ce goût-là en tout cas, avec un appui, puis il tenait ses bras. Et à la fin, ils vont remporter une grande bataille à la pointe de l'épée. Il n'est pas dit s'il y avait des blessés ou pas, je suppose que dans toute bataille, il y a des blessés. Mais ce qu'on garde, nous en tout cas, c'est qu'ils ont gagné la bataille. On oublie tout le côté qu'il y a pu avoir, la fatigue, la douleur, peut-être les larmes, mais gagne la bataille. Et puis à ce moment-là, on rappelle que Moïse avait un bâton dans la main. Et puis Moïse va appeler, faire un autel, et il va l'appeler Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. J'aimerais vous suggérer que lui, il voyait une bannière au bout de ce drapeau. Sinon, il aurait pu, l'Éternel est mon bâton, il est ma force, il est un guerrier, il est ce que tu veux. Mais c'est comme s'il tenait l'étendard de l'Éternel dans la main. Or, quand tu tiens qu'un bâton qui n'a pas d'étendard au bout, ça fait un peu bizarre. Je pense qu'il voyait quelque chose que nous, on ne voyait pas. Que les autres n'ont pas vu, mais que lui voyait. Mais après, c'est clair qu'avec ce qu'on voit, il faut se mettre au travail. Parce que la bataille n'a pas été remportée sans les hommes qui étaient sur le terrain. Il faut voir et se mettre en marche. Et je pense qu'une grande partie d'action, de non-action, naît dans la foi des choses que l'on voit. Et c'est comme Jacques qui disait à un moment donné, mais ta foi sans les œuvres, elle n'existe pas, elle est comme morte. Mais on a besoin de voir. J'aimerais que juste prier pour ça ce matin. Seigneur, viens nous emmener plus haut. Fais-nous voir ta face. Et que quelque part, ce que tu déposes dans nos vies, on puisse le recevoir. Et le recevoir et d'en faire quelque chose de fort. Comme Josué qui a dû choisir ses hommes sur la parole de l'Éternel. Et qui dû aller au combat sur la parole de l'Éternel. Et qui a vaincu mais qui a souffert sur la parole de l'Éternel. Oui. Et comme dans Éphésiens, je veux juste finir faire un rappel. Dans plein d'endroits, il est rappelé la primauté du sacrifice de l'agneau. C'est une réalité qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Il y a un seul corps. C'est pas une personne qui gagne la bataille, c'est un corps. Même si on est un corps, on a besoin de cette illumination pour voir l'Éternel, pour comprendre l'héritage, pour comprendre nos forces, pour comprendre qui il est et qui nous sommes en lui. Pour comprendre la révélation de l'amour plein et entier. Et puis dans tout ce texte, je ne l'ai pas relu, mais on rappelle qu'on est là pour célébrer sa gloire. Et puis entrer dans l'obéissance. Il y a du tri à faire dans notre vie, alors faisons le tri. Il y a des choses à enlever, des choses à garder. Il y a des choses qu'il faut fortifier, des choses qu'il faut absolument enlever. Faisons le tri. Et montons dans les hauteurs pour gouverner, pour combattre. Montons dans les hauteurs. Montons avec l'Éternel. Montons pour être assis dans les lieux célestes. Et comme ça a été dit tout à l'heure, pour annoncer la gloire, la justice dans la vallée. Et pour dire au principe tout est stop, ça suffit. Alléluia. Oui, papa, je veux simplement te bénir pour ce temps qu'on a pu vivre ensemble. Et je prie que chacun de nous vienne reçoive une illumination de ta part. Mais en même temps qu'on reçoive cela tous ensemble, il y a quelque chose dans lequel tu veux nous emmener, quelque chose de nouveau, une nouvelle porte qui veut s'ouvrir, et dans lequel on veut rentrer. Et pour ça, papa, on a besoin de toi. On a besoin de comprendre la saison dans laquelle nous vivons. Et peu importe la saison ancienne, les fatigues ou les batailles, on veut faire comme Moïse qui avait dit, mais fais-moi voir ta face. Pour ce qui est devant moi, j'ai besoin de voir ta face. Pour ce qui est devant nous, j'ai besoin de voir ta face. Et papa, je prie que dans les jours qui viennent, dans la semaine, chacun de nous reçoive une révélation nouvelle et forte de ta présence, de ton amour, de ta bonté, mais aussi de ta vision pour chacun de nous, de ta vision pour nous en tant que corps. Et aide-nous à être dans ce service comme Chloé ce matin, ou comme Johan, ou comme David qui nous servit, comme Alice et tellement d'autres qui sont là, jour après jour présents, qui prennent avec foi ce qu'ils entendent et agissent selon ce qu'ils ont entendu et vu. Alléluia. Et on veut bénir tous ceux qui sont loin aujourd'hui, qui ne sont pas pu venir. Et je te prie qu'ils soient visités. Comme ces 70 qui étaient, certains qui étaient hors du camp du temps de Moïse, et l'Esprit est venu sur eux. Je te prie que l'Esprit vienne sur chacun de nous dans l'Église, peu importe où il est placé. Peut-être qu'aujourd'hui quelqu'un est en train simplement de marcher dans la forêt, ou quelqu'un est assis chez lui et n'est pas en bonne santé, ou quelqu'un est au loin parce qu'il est parti travailler, ou est loin en famille, peu importe. Mais que tu puisses saisir chacun de nous, et que nous puissions tous ensemble nous retrouver en tant que nous, un seul corps en mouvement, un seul corps qui célèbre ta gloire, un seul corps qui élève ton nom. Alléluia. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus. Amen.